La Grande-Bretagne avait voté. Elle avait signifié à David Cameron de prendre ses clics et ses claques. Elle avait exprimé clairement son opinion sur l'Union européenne. Et, ce choix crucial fait, elle ne voulait plus y penser et préférait retourner à ses occupations quotidiennes en laissant la mise en œuvre à ceux qui étaient traditionnellement chargés de cette besogne, la classe dirigeante. Un certain nombre de députés trublions avaient déposé plus de 400 amendements et de clauses nouvelles sur lesquelles il faudrait voter un par un après en avoir débattu. Ces amendements avaient pour fonction première d'empêcher le gouvernement de s'octroyer des pouvoirs trop étendus. Mais il y avait aussi un détail du projet de loi qui dérangeait particulièrement les députés rebelles. Et c'était la décision de la Première ministre d'imposer une date butoir, 11h du soir, le 29 mars 2019, pour le retrait de l'Angleterre. Il n'est nullement nécessaire de se lier les mains de façon aussi contraignante, alors que nous ne savons même pas ce qui va se passer, et qu'il est tout à fait possible qu'il soit avantageux à la fois pour les Européens et les Britanniques de prolonger les négociations au-delà de cette date, afin d'arriver à un accord solide, avait déclaré l'un d'entre eux. Mais l'argument ne convainquait pas certaines parties de la presse et certaines parties du public, persuadées que ces Tories frondeurs avaient une toute autre idée derrière la tête, moins avouable, retourner tout bonnement le résultat du référendum.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Avouons que si nous avions lu, avant 2016, un roman dans lequel l'auteur aurait imaginé l'interminable tragicomédie du Brexit à laquelle nous assistons depuis 3 ans, nous aurions trouvé qu'il poussait vraiment trop loin l'invraisemblable. Avec David Cameron, tout d'abord, promettant un référendum sur la sortie de l'Union européenne en pensant qu'il ne risque rien puisqu'il est certain de perdre les élections, puis avec Theresa May, qui est opposée à la rupture avec l'UE, en devient la plus féroce partisane pour conserver son pouvoir. Et enfin, avec Boris Johnson, menteur effronté, se voyant déjà monarque d'un paradis fiscal réservé aux super-riches. La réalité a donc dépassé la fiction. Et le Brexit, de pitoyable canular politique, est devenu une sorte de tumeur qui attaque les esprits et divise jusqu'au sein des familles et des couples. Rien ne vaut la littérature pour nous faire comprendre, mieux que toutes les enquêtes médiatiques, dans quel monde nous vivons. Il faut donc lire le dernier roman de Jonathan Coe, d'abord parce qu'il est formidablement réussi, mais aussi parce qu'il nous donne des clés utiles pour pénétrer au cœur de l'Angleterre. Le cœur de l'Angleterre, dans l'excellente traduction de José Camoun, est d'ailleurs le titre choisi par Gallimard pour ce Middle England, que l'on pourrait plutôt comprendre comme l'Angleterre profonde, celle qui, derrière ses particularismes folkloriques, ressemble si fort à la France d'aujourd'hui, jusque dans ses blessures méprisées par les politiques et sa peur panique d'un avenir réservé, là aussi, aux premiers de cordée. Les attachants personnages de Jonathan Coe tentent d'y poursuivre leur vie et d'accomplir leurs rêves, mais la politique, par les temps qui courent, fait hélas, plus que d'ordinaire, partie de l'équation. Bonsoir Jonathan Coe.
Bonsoir.
C'est le 4e de vos romans où la politique est présente bien plus que comme un thème accessoire. C'est vraiment le fond sur lequel vos personnages agissent, aiment, meurent, se déchirent. Il y a eu les années Thatcher, puis les années Blair, et aujourd'hui, ce sont les années Cameron, Theresa May et Boris Johnson avec ce dernier livre, Le cœur de l'Angleterre. Vous dites que vous l'avez commencé un an après le référendum sur le Brexit. Est-ce que pour vous, c'était une sorte de thérapie pour tenter de vous y retrouver dans une Angleterre qui vous laissait assez démunie, semble-t-il ?
J'écris pour mieux comprendre le monde.
I don't begin a novel with a preconceived
theory. Je n'ai pas de théorie préconçue.
Milan Kundera has referred to as thesis novels.
J'essaie de pas trop me lancer dans des romans de thèse, comme dirait Milan Kundera. Et le résultat du référendum 2016 m'a laissé démuni et mal à l'aise quant à ce qu'il se passait dans mon pays. Maintenant, nous avons 3 ans de recul Et nous pouvons dire que nous nous sommes un peu remis du choc, de la surprise, et maintenant on peut regarder les choses de façon plus sereine, et on se rend compte que le résultat avait quelque chose d'inévitable. Pendant de nombreuses années, comme j'essaye de le démontrer dans ce roman, Le cœur de l'Angleterre, il y a eu des séries de mécontentements qui n'avaient fait que croître et embellir au sein de la classe moyenne britannique. Et tout cela s'est exprimé autour de ce moment bien particulier de ce que l'on pourrait appeler, de ce que certains appellent, la démocratie pure, un message direct envoyé au gouvernement et qui tourne autour de la question de savoir si l'on voulait rester ou non dans l'Union européenne. Mais en réalité, la question était bien plus profonde et bien plus vaste que cela.
Jonathan Coe, il y a eu, c'est une longue tradition dans les littératures, britanniques comme françaises, comme européennes, de mettre de temps en temps de la politique dans les romans que les écrivains nous donnent, mais depuis le XVIIIe siècle. Simplement, on trouve que dans ce dernier livre que vous avez écrit et qui paraît en France ces jours-ci, la politique n'est pas seulement un élément du tableau. La politique détermine les actions de vos personnages, elle influe sur leur caractère, elle déchire les familles. Est-ce que vous avez l'impression que cette politique, elle est devenue beaucoup plus importante dans nos vies qu'elle ne l'avait été par le passé? Est-ce qu'il est donc normal qu'un écrivain, un romancier, en tienne davantage compte aujourd'hui?
Depuis les années 60, on a tendance à dire que tout est politique. Et aujourd'hui, le mot politique peut revêtir des définitions diverses et variées. Il ne s'agit pas simplement de la procédure parlementaire obscure à laquelle on assiste en Grande-Bretagne. Boris Johnson vient de tenter de suspendre le Parlement, la Cour suprême l'a contredit. Donc ça, c'est un aspect très précis de la politique. Appelons ça la procédure politique. Mais la politique, aujourd'hui, met plus l'accent sur des questions fondamentales d'identité, de sexualité, d'ethnicité, l'attitude que l'on a envers l'immigration. Des questions comme cela qui sont centrales s'agissant de la relation que l'on a à l'existence dans un pays et de la relation que l'on a à l'autre, au voisin, au pays voisin. Et cette question identitaire est très importante à bien des égards. Tout cela est très profondément ancré dans des préoccupations fondamentales. Et tout cela a été ramené à la surface par David Cameron lorsqu'il a demandé au peuple britannique ce qu'il pensait de rester ou de quitter l'Union européenne. Mais avant tout cela, le peuple britannique ne s'était pas posé toutes ces questions. Il y a beaucoup de Britanniques qui restent indifférents, et il y a même pas mal de Britanniques qui ne savaient même pas si on était ou non membre de l'Union européenne avant qu'on leur pose cette question. Mais une fois ces questions et ces problèmes remontés à la surface, tout cela a engendré une grande passion dans le peuple britannique. Et maintenant, évidemment, c'est un point central de discussion, de débat, de conflit, de clivage partout au Royaume-Uni.
Jonathan Coe, depuis toujours en Europe, les Européens et les Français en particulier ont regardé les Anglais avec des sentiments mêlés d'agacement et d'admiration. On sait que l'Angleterre est rentrée beaucoup plus tard dans le marché commun, en 73 par rapport à nous. On sait que les Anglais cultivent leur particularisme. Et en littérature également, il y a une petite scène dans votre livre que l'on va écouter où un romancier britannique à succès est confronté à un romancier français. Le romancier français est très révérend puisqu'il dit que l'Angleterre a réussi bien mieux que la France, par exemple, à intégrer les communautés. On va écouter la réponse que lui fait le romancier britannique et nous en parlerons ensuite.
Voyez-vous, pontifia l'éminent romancier,
Je me méfie par principe de ces grandes généralisations sur le caractère national. Mais je pense cependant que Philippe vient de mettre le doigt sur quelque chose. Moi qui ne suis certes pas patriote à tout craint, loin s'en faut, ce que j'admire dans notre caractère britannique, et Philippe a raison, c'est notre amour de la modération. Notre amour immodéré de la modération, devrais-je dire. Cette formule choc tomba comme un fruit mûr dans le silence révérencieux de l'auditoire où elle suscita des ondes de rire. Nous sommes une nation pragmatique en politique. Les extrémismes, de droite comme de gauche, ne nous séduisent pas. Et puis, nous sommes fondamentalement tolérants. C'est pourquoi l'expérience multiculturelle a largement réussi chez nous, malgré un couac par-ci par-là. Je ne me risquerai pas à nous comparer aux Français sous ce rapport, bien sûr. Mais à titre personnel, c'est bien ce que j'admire chez les Anglais. La modération et la tolérance. Quelle foutaise complaisante, conclut Sohan. Mais hélas, il ne le dit pas sur scène. Tu trouves ? Demanda Sophie. Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. La tolérance, ben voyons. Tous les jours, tu te trouves face à des individus qui n'ont rien de tolérant. Que ce soit une vendeuse ou un vendeur dans une boutique, ou un simple passant dans la rue. Ils ne te disent peut-être rien d'agressif, mais tu le lis dans leurs yeux et dans toute leur attitude envers toi. Et ils voudraient bien parler. Oh oui, ils voudraient bien te lancer ces mots défendus. Te dire de retourner dans ton pays de merde, celui qu'ils t'attribuent. Mais ils savent que c'est impossible. Ils savent que c'est défendu. Alors, non seulement ils te détestent, mais ils les détestent eux aussi. Eux, ces gens sans visage qui les jugent, là-haut, qui décident de ce qu'ils ont droit de dire et de ne pas dire à haute et intelligible voix.
Jonathan Coe, je sais que pour les Français, on a toujours le sentiment d'être différent des autres. J'imagine que pour les Britanniques, c'est pareil. Et pourtant, en lisant la plupart des passages de votre livre, où justement la modération et la tolérance proverbiale des Anglais est mise à mal, on retrouve beaucoup des préoccupations des Français. La montée de la xénophobie, l'isolationnisme, les rêves d'un passé historique fantasmé. Au fond, vous écrivez sur l'Angleterre et on a, nous, les lecteurs français, le sentiment que vous écrivez sur notre pays.
Yes, almost the first email I got about the book was from an Italian reader who.
Le premier courriel que je reçois à propos du livre était celui d'une lectrice italienne. Moi, je pensais que le livre était trop particulièrement anglais. Et elle me dit, mais pas du tout. On a l'impression que vous parlez de l'Italie. Et vous, vous me dites que vous avez l'impression que je parle de la France. Alors, il y a beaucoup d'auto-parodie et d'auto-critique dans ce livre. Moi, j'aime bien me répartir au sein de mes différents personnages. C'est vrai que je me mets surtout dans la peau du protagoniste, Benjamin Trotter, et Lionel Hampshire, ce romancier anglais particulièrement pompeux et un peu hautain. Je me retrouve là-dedans aussi. Et parfois, je me retrouve dans des débats avec des écrivains d'autres pays. On parle de caractéristiques nationales et ainsi de suite, les caractéristiques de la littérature nationale. Et le Lionel Hampshire dit ce genre de choses qu'on vient d'entendre. Et moi, je dois dire que je me reconnais là-dedans, peu ou prou. Donc, c'est de là que vient ce discours qu'on vient d'entendre. Mais presque tout dans ce livre est inspiré de ma vie et de discussions que j'ai eues récemment au fil des dernières années avec des gens que j'ai rencontrés. Cela est vrai pour la deuxième intervention qu'on a entendue dans cet extrait, et là c'est Sohan qui parle, là c'est un universitaire britannique d'origine sri-lankaise qui parle. J'ai un ami qui travaille dans le monde de l'édition, c'est une femme, elle est de couleur noire, et après le référendum, nous étions en train de parler dans un pub, et moi je disais, j'ai lu dans le journal que le racisme est un petit peu décomplexé aujourd'hui. Les gens ont l'impression qu'ils ont plus le droit de se comporter de manière raciste aujourd'hui. Et je lui ai demandé si elle était d'accord, si elle avait vécu cela. Et elle m'a dit ce que Sohan dit. Elle dit, oui, mais c'est pas nouveau. Moi, j'ai grandi avec tout cela. Donc, voilà une femme noire de la classe moyenne qui travaille dans le monde de l'édition et qui gravite dans les cercles intellectuels, si l'on peut dire. Et oui, elle était consciente du racisme. Elle voit ça dans le regard et dans le comportement des gens qu'elle rencontre jour après jour. À l'évidence, moi, j'étais naïve. Je ne savais pas cela. Mais comme dans pas mal de propos que je relate dans ce livre, et bien tout ça, c'était inspiré de ma vraie vie et de mon expérience. And a due to some hundreds of pounds. If the world had been ended when I had been young, my sorrows I'd never have known. Once I could drink of the best, the very best brandy and rum. Now I'm glad of a cup of spring water that flows from town to town. As I was a-walking one morning in spring to see the...
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Jonathan Coe, on vient d'entendre Shirley Collins qui chante « Adieu to Old England and Sweet England ». Elle chante une Angleterre au passé bucolique et glorieux, militairement parlant. Et on se rend compte que dans votre livre qui vient de sortir, il y a ces personnages les plus âgés, Colin, Elena, qui sont des parents de vos personnages principaux, et qui regrettent ce temps où l'Angleterre comptait, où elle avait une industrie forte, où elle était crainte, où elle avait un empire. Et on sent que cette détestation de l'Europe, finalement, elle s'adresse à un autre problème. Elle s'adresse à la fin d'une époque glorieuse. Est-ce qu'il y a ce fossé des générations très présent en Angleterre entre ceux qui sont pour le Brexit, ceux qui sont contre? Est-ce que les jeunes sont partisans de l'Europe? Est-ce que les vieux sont pour le Brexit, mais pour de mauvaises raisons?
The split between leavers and remainers,
le clivage entre les électeurs se décline selon différents facteurs. D'abord, il y a Londres et le reste de la Grande-Bretagne. À Londres, on a voté pour rester, alors qu'ailleurs, non. Ensuite, il y a le clivage entre les villes universitaires, où les électeurs souhaitaient rester, et les villes qui ne sont pas universitaires, qui souhaitaient partir. Mais le clivage le plus important, à mon avis, c'est celui entre les générations. 80% des gens de moins de 25 ans ont voté pour rester dans l'UE. 70 ou 75% des gens de plus de 65 ans ont voté pour quitter l'UE. Donc là, le message est très fort. Il y a des générations qui ont des sentiments radicalement différents s'agissant de l'UE. Les gens de moins de 25 ans sont nés alors que la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne. La liberté de se mouvoir, de travailler dans d'autres pays, ça c'est un droit. Et le fait de se voir retirer ce droit, cette liberté, par une génération d'électeurs qui n'a plus grand-chose à espérer de la vie, eh bien, c'est particulièrement douloureux pour les jeunes. Les jeunes sont très en colère face à ce résultat du référendum. Donc oui, clivage entre les générations à n'en pas douter. Il y a également des clivages au sein des familles. J'essaye d'illustrer cela par les personnages de Colin et Helena dans mon roman Le cœur de l'Angleterre. Colin, lui, il vote pour quitter l'Union européenne une semaine avant le référendum. Il envoie son bulletin par la son bulletin de vote par la poste. Et il meurt le même jour. Il fait un AVC. Mais avant cela, Benjamin lui dit, et Sophie, ta petite fille, est-ce que tu as pensé à elle? Elle souhaite rester dans l'UE. Et il répond, elle sera reconnaissante envers moi un jour. Donc ça, je pense que c'est une illustration de la séparation du point de vue des familles et des générations.
Une autre illustration, Jonathan Coe, dans Le cœur de l'Angleterre, c'est Helena, justement la mère d'un de vos personnages, Yann. Elle va voter pour le Brexit, elle le dit à l'avance, au cours d'un repas familial où elle finit par dire ce qu'elle a sur le cœur. Il n'y a pas seulement l'appartenance à l'Europe qu'elle rejette, il y a le regret d'une époque où en Angleterre on pouvait faire de la chasse à cour et surtout la haine de ce qu'elle appelle le politiquement correct.
Tout de même, vous vivez dans un pays libre et démocratique, vous au moins, fit observer Monsieur Hou sans circonspection. Détrompez-vous. Malheureusement, dit Helena, l'Angleterre n'est plus un pays libre aujourd'hui. Nous vivons sous un régime tyrannique. Un régime tyrannique? Madame, je vous en prie, mesurez vos paroles. Je les mesure au plus juste, je vous prie de me croire. Votre monsieur Cameron ne me fait pas l'effet d'un tyran. Ce n'est pas ce que je veux dire. Le tyran n'est pas toujours un individu. Ça peut être une idée. Vous vivez sous la tyrannie d'une idée, précisément, qui s'appelle le politiquement correct, bien sûr. Je suis certaine que vous avez déjà entendu cette expression. Certes, mais pas liée à l'idée de tyrannie. Helena posa ses couverts. Monsieur Hou, je ne suis jamais allé en Chine et je me garderai bien de traiter à la légère les conditions de vie difficiles qui doivent être les vôtres là-bas. Mais ici, en Grande-Bretagne, nous sommes confrontés au même problème. Au fond, je serais tenté de dire que notre situation est pire. Vous subissez une censure avouée. Chez nous, elle est occulte. Tout se passe sous le masque de la liberté d'expression, de sorte que les tyrans peuvent prétendre que tout va pour le mieux. Hors de liberté, nous n'en avons pas, ni d'expression, ni d'autre chose. Ceux qui gardaient vivante une magnifique tradition anglaise en pratiquant la chasse à cour ne sont plus libres de le faire. Et si certains d'entre nous tentent de s'en plaindre, leurs voix sont aussitôt couvertes par des hurlements. Nos opinions n'ont plus le droit de s'exprimer à la télévision ni dans les journaux. Notre télévision d'État nous ignore superbement ou nous traite avec mépris. Voter, c'est peine perdue quand tous les politiciens entretiennent les opinions qui flottent dans l'air du temps. Bien sûr, j'ai voté pour Monsieur Cameron, mais sans le moindre enthousiasme. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. À vrai dire, il connaît aussi mal notre façon de vivre que ses opposants. Ils sont tous du même côté, finalement. Et ce côté-là n'est pas le nôtre. Maintenant, comme vous n'avez pas l'air convaincu, je vais vous donner un autre exemple. Un exemple bien précis. Il y a un an, mon fils a fait acte de candidature pour un poste. Pour une promotion, et s'il y avait de l'équité et de la justice aujourd'hui dans notre pays, il l'aurait obtenu. Seulement, ils l'ont donné à une autre candidate, à cause de son appartenance ethnique et de la couleur de sa peau. Helena n'avait pas fini. L'Angleterre de la classe moyenne, expliqua-t-elle en s'adressant directement aux Chinois, a voté Cameron parce qu'elle n'avait pas le choix. L'alternative était impensable. Mais quand l'heure viendra de lui dire ce que nous pensons vraiment de lui, à la première occasion, croyez-moi, nous le dirons.
Jonathan Coe, en tant qu'écrivain britannique, bien sûr, vous êtes crédité d'un humour à toute épreuve. Là, dans ce dialogue incroyable entre une vieille Anglaise qui vit dans un pays malgré tout démocratique et libre, le discours qu'elle tient à un Chinois qui, lui, vit vraiment dans le pays qu'on connaît, et ce qu'elle dit, on pourrait le prendre au premier degré comme un trait d'humour de votre part, et en même temps, on sent que ce dialogue-là, il est tout à fait possible. C'est-à-dire, il est possible que des Anglais, bien informés, puissent penser qu'ils sont soumis à une sorte de tyrannie des esprits, Ce politiquement correct que vous décrivez à d'autres moments dans votre livre, d'ailleurs, il est à double tranchant, parce que ces gens comme Elena le dénoncent, mais ceux qui en sont les porte-parole, comme Sophie, par exemple, qui est une universitaire et qui se fait reprocher d'avoir parler de façon incorrecte à une de ses étudiantes, alors qu'elle est, elle, pour les étrangers, pour le politiquement correct. C'est quelque chose qui empoisonne la société britannique.
I don't think I would describe it as toxic and listening
qui empoisonne, to, je ne sais pas.
That Helena makes to mais
dans ses propos que tient Elena à ce Chinois, je n'entends pas d'humour personnellement. Il y a des éléments de comédie dans le livre, mais ces éléments de comédie sont à la périphérie de la politique, plutôt qu'au cœur des conversations liées à la politique telles que celle-ci. Mon objectif en écrivant ce livre n'était pas de prendre parti, n'était pas de juger. J'ai voulu créer une polyphonie pour que chacun des personnages puisse s'exprimer. Et je voulais qu'on puisse les écouter. Et je crois que dans ce livre en particulier, je n'ai pas voulu m'exprimer par le truchement des personnages. Au contraire, j'ai voulu les écouter parce qu'ils sont devenus tout à fait réels. Et s'agissant du mot de ce que l'on vient d'entendre, j'avais l'impression que j'étais en train de faire de la transcription. J'avais l'impression d'écouter une conversation et d'en faire que la transcription.
Educated people in the UK, I've many times heard.
Mes personnes éduquées, informées en Grande-Bretagne, on entend le terme tyrannie s'agissant du politiquement correct, et c'est au premier degré. C'est en toute sincérité que l'on dit ça. Il y a des gens qui ressentent cela pour de vrai. Et encore une fois, je crois que on peut attribuer cela au fait que le politique prend une dimension personnelle. Mais il ne s'agit pas d'opinion politique, mais de croyances politiques plus profondément ancrées. Et les gens comme Elena, de cette génération et des mêmes origines, ont, à mon avis, une façon de percevoir le monde qui est constamment jugé. Et il y a eu, dans les attitudes sociales, des changements qui ont lieu très rapidement. Ces gens-là ont été laissés pour compte intellectuellement. Et lorsque l'écart se creuse, eh bien, ces gens-là se retrouvent jugés, en position d'être jugés. Et évidemment, cela ne fait que engendrer de la victimisation et de l'aigreur. Il y a un autre dialogue important dans le roman. Elena est en voiture, elle va à l'hôpital avec sa belle-fille, Sophie. Ces deux personnages n'ont pas grand-chose en commun. Elles sont complètement à l'opposé de ce que l'on peut penser du point de vue politique. Néanmoins, elles sont courtoises, elles parlent du pluie, de la beau temps et du paysage. Et tout à coup, elles commencent à parler des émeutes de 2011 qui ont eu lieu à Londres. Elena parle d'Enoch Powell, responsable politique qui a fait un célèbre discours, les fleuves du sang. Il prédisait que trop d'immigration engendrerait de la violence. Elena dit, et d'autres l'ont dit, c'est encore une fois, j'ai vécu cela, moi, Enoch avait raison, Enoch Powell avait raison. Et tout à coup, le clivage entre Elena et Sophie devient tel qu'il n'y a plus moyen de parler. Et le sujet le plus explosif, le plus sensible vient d'être soulevé, et la différence entre leurs opinions est en pleine lumière. La conversation se trouve totalement avortée, elles n'ont plus de mots pour avoir un échange. Eh bien, ce genre de situation, ce genre de clivage, on le retrouve dans la société britannique, ailleurs aussi, mais il faut néanmoins faire avec.
Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, c'est très drôle, c'est très féroce, c'est très désespérant, d'autant plus qu'à la fin, vos personnages, certains de vos personnages, comme Benjamin Trotter et sa sœur Loïs, ne trouvent pas d'autre issue à leur vie que de s'exiler. Ils vont dans le sud de la France. Est-ce que pour vous, le Brexit, ça peut conduire aussi des gens à préférer quitter le cœur de l'Angleterre ?
I know some people who've talked about
moi, je connais des personnes qui envisagent de quitter l'Angleterre en raison du Brexit, des gens qui, de toute façon, auraient peut-être quitté l'Angleterre, mais comme pour tous les aspects du livre, il faut se souvenir que la vie personnelle est intimement liée à la vie politique. Donc, Benjamin quitte l'Angleterre à la fin du roman pour s'installer dans le sud de la France, vous l'avez dit, mais il ne fait pas pour simplement fuir le Brexit, il le fait parce qu'il aime sa sœur, il veut vivre avec elle, et elle, elle veut quitter l'Angleterre, elle veut quitter Birmingham en particulier, parce que elle a vécu un traumatisme dans les années 70 à Birmingham, et elle ne s'en est pas vraiment remise. Donc, l'histoire, la petite histoire et la grande histoire jouent un rôle très important dans ce roman. Il y a un personnage en 2018 qui prend une décision qui repose sur un événement qu'elle a vécu en 1974 et qui était un moment politique important. Donc, le bombardement d'un pub en Birmingham, un bombardement par l'IRA. C'est ça qu'elle a vécu. Donc, quitter le pays pour s'installer ailleurs simplement pour fuir le Brexit, c'est une solution trop simple, trop absurde pour Benjamin. Ses motivations sont plus complexes que cela. Et par ailleurs, je pense que lorsque l'on lira le dernier chapitre, on se rendra compte que ce n'est pas aussi réaliste que le reste du roman. La France que Benjamin recherche, c'est une sorte de fantasme anglais. Il s'installe dans un vieux moulin, il y a là un cours d'eau, il organise une fête, il y a des amis de différents pays européens qui viennent là. C'est une sorte de moment de célébration magique et irréelle d'un fantasme pour certains Anglais. Mais il fallait que je termine le livre sur une note comme cela, parce qu'il y a deux histoires dans ce roman. Il y a l'histoire personnelle des personnages, mais il y a aussi l'histoire, avec un grand H, du Royaume-Uni. L'histoire personnelle doit trouver une résolution, parce que c'est un roman, il faut quand même arriver à une fin. Mais l'histoire avec un grand H, elle, est sans fin. Donc il fallait bien que je fasse quelque chose de différent dans ce dernier chapitre.
Et on attend avec impatience la suite, parce que forcément il y en aura une. En tout cas, merci Jonathan Coe de nous avoir parlé de ce roman, Le cœur de l'Angleterre, traduit par José Camoun, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Un formidable livre, et merci à Xavier Combes qui nous a permis de nous entendre ce soir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.